Europe 1,
11h30,
bien fait pour vous.
Julia Vignali et Mélanie Gomez.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Mélanie.
Bonjour Julia, bonjour à tous.
Bienvenue dans Bien fait pour vous, votre magazine Feel Good dédié au bien-être, au mieux vivre et à votre santé également. C'est tous les jours en direct jusqu'à midi et demi. Alors ce matin Mélanie, par quoi on attaque ?
Eh bien on va proposer aujourd'hui quelque chose d'assez étonnant. On va réfléchir à cette question, comment devenir un expert en apprentissage ? Ça vous intrigue, hein, je suis certaine, mais vous allez l'entendre grâce à la méthode de Guillaume alias Super Echo sur YouTube. Vous allez pouvoir apprendre ce que vous voulez. Jouer de la guitare, jouer au basket ou encore siffler avec les doigts. Le plus important, dit-il, ce n'est pas ce que vous apprenez, mais comment vous l'apprenez. Il va tout nous expliquer.
Et puis Mélanie, à 11h35, il y aura notre dossier santé bien-être du jour. Aujourd'hui, coup de projecteur sur une pathologie qui concerne plus de femmes qu'on ne l'imagine, l'endométriose. Le président de la République a annoncé il y a quelques jours lancer une stratégie de lutte contre cette maladie, notamment un renforcement des budgets de recherche. Mais en attendant que tout ça porte ses fruits, comment mieux vivre avec l'endométriose ? On en parlera avec le docteur Marc Even. Il est gynécologue obstétricien à l'hôpital Foch et cofondateur des centres .gyn.
Ensuite, Julia, à midi, ce sera notre séquence tendance avec notre bande de chroniqueurs toujours à l'affût de ces nouveautés, de ces bons plans qui nous font du bien. Il y aura d'abord le docteur Oren Marco, alias Dr Beauty sur les réseaux sociaux. Il va nous proposer ses solutions, ce que l'on propose aujourd'hui de mieux dans le secteur de la médecine esthétique contre les pores dilatés. Et ensuite, on retrouvera notre experte mode, Sophie Braffman. Aujourd'hui, elle va nous parler d'un motif qu'on retrouve un peu partout sur les vêtements ces derniers temps. Le smiley, vous savez, ce petit bonhomme jaune qui sourit, qui est donc très tendance. Elle nous expliquera comment l'arborer sans être ridicule.
Et enfin, Mélanie, on finira ce tour de table des tendances avec les conseils sportifs de Jean-Marc Delorme. Conseils sportifs et conseils sentimentaux en même temps, puisqu'il va nous proposer quelques idées cadeaux pour la Saint-Valentin. À mon avis, ce sera des cadeaux qui font un peu transpirer quand même.
Europe 1.
C'est bien fait pour vous, vous êtes sur Europe 1 dans votre magazine Bien-être, Mieux Vivre. Ici, vous le savez, on tente vraiment de vous être utile au quotidien. Et ce matin, plus que jamais, puisqu'on va étudier cette question, comment devenir un expert en apprentissage ?
Elle est un peu étrange quand même, cette question posée comme ça, Mélanie. On se croirait un peu dans Matrix, tel Neo, le personnage principal qui débloque ses compétences et qui devient un expert en apprentissage. Mais en fait, c'est un peu ça, hein, d'une certaine façon, notre sujet ce matin. Notre invité, c'est Guillaume, alias Super Echo sur YouTube. Il va nous présenter sa méthode qui nous permet d'apprendre tout sans limite et dans un instant. Mais avant ça, lui non plus n'a pas de limite. Il interroge les Français pour nous dans la rue sur tous les sujets. Bonjour Clément Lanoux.
Bonjour tout le monde. Alors sachez déjà que le sujet me passionne. J'adore apprendre, mais comme beaucoup de Français, j'ai un souci. J'ai du mal à retenir. Alors je suis allé dans la rue avec une question que j'ai réussi à retenir. Je leur ai dit, c'est quoi votre méthode pour apprendre et surtout pour retenir ?
Non, en général, je note tout sur mon téléphone. J'essaye de marquer plutôt parce que j'arrive pas à retenir tous les, enfin à part les choses banales comme mon code de téléphone ou mon code de la maison, ça c'est des choses qu'on a déjà dans la tête. Mais sinon, s'il faut retenir plus de choses, eh ben j'aurais du mal, c'est sûr.
Voilà la réponse que j'ai eue à peu près à chaque fois, de dire voilà, aujourd'hui je note, je ne retiens absolument rien, laissez ma mémoire tranquille. Alors il existe sûrement, et on va le voir dans un instant, de bonnes méthodes pour apprendre. En attendant, vous apprenez comment ?
Retenir les premières lettres de chaque mot ou imaginer une histoire à partir de ce que j'ai à retenir.
Je fais souvent des raccourcis, ça dépend vraiment des choses, c'est très subjectif, mais c'est des jeux de mots ou alors c'est par rapport à des lieux, c'est souvent ça.
Je peux relire ma leçon ou ma séquence pendant 5 fois durant les 3 jours et je retiens vite.
Quand je fais une liste de courses, je me note, je sais le nombre de choses que je dois acheter. Genre si j'ai 4 trucs à acheter, je sais 4. Et tant que j'ai pas acheté 4 trucs, globalement, je sais que j'ai loupé un truc quoi.
Alors j'ai essayé celle-ci.
Pour acheter n'importe quoi.
Je l'ai essayé hier en disant j'ai 6 trucs à acheter. Je suis arrivé, je ne savais plus quoi, mais je savais que j'avais 6 trucs à acheter.
Des
j'ai
bonbons,
juste retenu,
des
voilà.
Gâteaux, du fromage, c'est bon.
Donc j'ai hâte de connaître les techniques. À l'inverse, souvent on a dans la mémoire des trucs qui servent à rien. Par exemple, je retiens tout, j'ai dans la tête, je sais pas pourquoi, tous les résultats du FC Nantes 94-95. Des matchs il y a 20 ans. Vous pouvez me demander n'importe quel match, je sais qui a marqué et tout, alors que je ne sais même pas ce qu'ils ont fait la semaine dernière. Je me suis dit, est-ce que je suis le seul à avoir ça dans la tête ou est-ce que vous aussi, vous avez des choses qui ne servent à rien ?
Je fais beaucoup de tri en fait, donc ce qui ne me sert pas, généralement, je ne le garde pas du tout.
Mais bien sûr, après si on creuse un peu, est-ce que vraiment il n'y a pas un truc que vous avez en mémoire qui ne vous sert pas ?
Oui, enfin, le numéro de ma classe quand j'étais en 6e en fait, c'est resté, c'est mon mot technique, c'est 6 à 22. Et ça me sert vraiment plus tout, mais c'est gravé dans ma mémoire.
C'est drôle. Moi, c'est le numéro de téléphone fixe de mes parents quand on était tout petit. Mais après, en plus, on a changé plusieurs fois, mais je m'en souviens très bien.
Mais on a tous ça dans la tête. Par exemple, vous aviez quoi ?
J'avais des codes pour la PlayStation, mais maintenant le jeu il a évolué, du coup ben, ça sert à rien.
Allez, donc n'apprenez pas des trucs qui évoluent, apprenez des trucs qui servent, même si en fait ça sert pas vraiment.
Bah, le théorème de Pythagore, ça m'a rien servi. Hein. Ou de Thalès non plus, hein. J'ai pas utilisé ça dans la vie. Pourtant, je suis vendeuse, mais non, dans les maths, non, il n'y en a pas besoin. Comme quoi, hein. Il y a des choses qu'on apprend à l'école qui sont inutiles.
Oh, ça balance. Et enfin, c'est pire que vous, Mélanie. Il y a quelqu'un qui a retenu un truc qu'il a là dans sa tête chaque jour, mais qui sert vraiment plus à rien.
Le numéro de mon ex, par exemple. Bah oui, mais ça sert à rien. Mais je l'aurai toujours en tête, en fait.
Alors celui-là, j'ai oublié très vite, moi, pour
recevoir. Ouais, tout à fait. Et alors, juste comme ça, par exemple, Julia, votre numéro sur la carte de crédit, c'est quoi? Vous l'avez comme ça ou pas?
Non, mais j'ai mon numéro de sécu, si ça vous intéresse.
Ah, voilà, j'essayais.
275-07-75-111.
Faut pas le donner, faut pas le donner.
Merci beaucoup, Clément Lanoux, pour ce petit reportage qui nous a déjà bien mis dans l'ambiance. Je vous en remercie. Restez encore un petit peu avec nous. Parce qu'à présent, on va accueillir notre invité. Bonjour, Guillaume.
Bonjour.
Alors, on vous connaît sous le pseudo de Super Echo. Je l'appelle, hein, Super. Bon, Super. Echo, H-E-C-O. Car vous êtes YouTube et auteur du livre Le Guide Ultime pour tout apprendre et devenir un super-héros aux éditions First. Alors, on va voir comment devenir un expert en apprentissage avec vous. Mais déjà, vous, comment vous est venue cette idée, justement, et l'idée de vouloir tout apprendre, comme ça, précisément?
Bah justement, on en parlait tout à l'heure, mais c'est Matrix. En fait, la première fois que j'ai vu le film et que j'ai vu que Neo pouvait acquérir plein de compétences en quelques secondes avec une disquette, en fait, j'ai eu le déclencheur. Je me suis dit, en fait, c'est ça le vrai super-pouvoir, c'est de pouvoir tout apprendre, parce que ça donne une opportunité en fait qui est juste infinie et que bah, on peut devenir fort en karaté, fort en kung-fu. Enfin, il y a un truc qui est extrêmement jouissif. Après le passage à l'acte pour faire ma chaîne et tout ça, il y a eu un peu de temps, mais en tout cas, je sais que le point de départ, c'était quand même Matrix, quoi.
On va essayer de donner ce bon point de départ à nos auditeurs aussi.
Voilà, on se met dans l'ambiance.
Voilà. Regardez ça.
Alors, dans votre guide ultime pour tout apprendre, l'un de vos conseils, c'est d'oublier ce que l'on sait sur l'apprentissage. Le système scolaire, par exemple, n'est pas le bon pour développer ses capacités.
En fait, dans le système scolaire, il y a plein de choses très bien, notamment pour voilà, avoir des connaissances, mais pour les compétences, c'est un peu différent. Il n'y a pas vraiment l'aspect pour compétences. C'est-à-dire qu'on va apprendre toutes les dates d'histoire, les théorèmes de Pythagore, comme on disait, mais on ne va pas forcément l'utiliser. Et ce qui manque un peu, c'est l'aspect compétences. Par exemple, bah, débloquer, je ne sais pas, le lancer franc basket, le Rubik's Cube. Il n'y a pas de cours comme ça à l'école, c'est peut-être normal, mais moi, je trouverais ça cool en fait, qu'il y ait ça, parce que ça permettrait de peut-être
d'apprendre
découvrir...
à apprendre.
Ouais, ça permettrait d'apprendre à apprendre, d'avoir des passions peut-être qui se créent plus tôt. Au lieu d'attendre 10 ans, bah on peut démarrer tout de suite à faire, par exemple pour moi, de la vidéo. J'aurais bien aimé pouvoir faire des cours plus tôt de vidéo. Donc il y a ça qui manque. Il y a aussi l'aspect effectivement de apprendre à apprendre. Il n'y a pas de cours sur comment mémoriser efficacement. En fait, on nous dit juste, bah, vous allez relire votre cours, vous faites des fiches, vous répétez, puis ça va rentrer. Mmh, au final, il n'y a pas ce truc-là vraiment de qu'est-ce qu'on peut faire autrement pour mieux retenir.
Oui, donc puis il y a des gens chez qui ça marche et puis des gens chez qui ça marche pas, bah, pas très bien. Ça
marche, on va dire, à peu près chez tout le monde, mais ça va pas être retenu sur le long terme. Et c'est ça le problème, c'est qu'aujourd'hui, moi, j'ai aucun souvenir de mes cours d'histoire, à part les trucs un peu marquants. Mais globalement,
moi, c'est pareil. Pourtant, je les apprenais très bien.
Oui, voilà.
Moi, j'apprenais par cœur, mais il m'en reste rien.
Il manque un peu ce truc-là pédagogique, on va dire.
Alors vous, votre première connaissance a été d'apprendre à siffler avec les doigts en 6 heures. Ça, j'adore, parce que moi, je rêve de savoir faire ça, même si totalement inutile. Quoique, si j'avais un chien, je pourrais le rappeler.
On n'a pas 6 heures là.
On n'a pas 6 heures, mais en gros, est-ce que vous pouvez nous les grandes lignes de la méthode pour apprendre à siffler en 6 heures?
Bah, la première astuce, ça va être de se laver les mains quand même.
Ah, c'est pas mal. Okay.
Voilà.
Okay.
Ensuite, ce qu'on peut faire, moi je le fais avec deux doigts. Mm-hmm. Donc l'idée, c'est de faire un peu un triangle avec ces deux doigts et qu'ils se touchent de cette manière-là. Il ne faut pas qu'ils soient comme ça, il faut qu'ils soient comme ça.
Okay.
Ensuite, on va les placer sous la langue.
Donc, on place les deux doigts en forme de triangle, entre guillemets, sous la langue.
Il faut bien que ça se touche. Et en fait, la langue, elle va se recroqueviller.
Ah non, c'est juste craché.
La langue, elle va se recroqueviller vers l'arrière. Ouais. Ensuite, on ferme la bouche. Et ensuite, on va faire un petit souffle. Et l'idée, c'est que le souffle, il doit passer au milieu.
Ça, c'est vous, ça marche? Julia, nous, on bave. C'est tout ce qu'on fait.
En fait, voilà. Le truc, c'est que vous allez beaucoup baver pendant beaucoup de temps avant d'y arriver.
C'est ça.
C'est la première fois que tu le
faisais? Non, vous le saviez le faire.
Oh, j'ai dû le faire petit, mais non. Ça faisait des années que j'avais pas fait ça, mais...
Ah ouais. Un mois.
Bravo. Il a une compétence.
Bon, à ce stade, c'est un truc de mec. On verra plus tard.
Mais c'est en fait, ça commence comme ça. Hein. Moi, au début, je me suis bavé sur les doigts pendant 5 heures. Et puis,
Guillaume alias Super Echo, vous restez avec nous. On va continuer à détailler votre méthode pour apprendre tout ce que l'on veut. Jouer de la guitare, jouer au basket ou aux échecs, ça peut être un peu plus utile peut-être que siffler avec les doigts, on va voir. Tout est possible et ce, à n'importe quel âge. Le plus important, selon notre invité, ce n'est pas ce que l'on apprend, mais comment on l'apprend. Et il va nous donner quelques-unes de ses techniques dans quelques minutes sur Europe 1.
11h30 sur Europe 1. Bien fait pour vous.
Mélanie Gomez et Julia Vignali.
De retour dans Bienfait pour vous, votre émission Feel Good Mieux Vivre. Et ce matin, arrêtez Mélanie, vous n'y arrivez pas du tout.
Non.
Et ce matin, on se pose cette question, comment devenir un expert de l'apprentissage? On fait le point avec vous, Guillaume alias Super Echo. Vous êtes youtubeur et l'auteur du livre Le Guide Ultime pour tout apprendre et devenir un super héros aux éditions First. Alors, quand on apprend, on passe par différentes étapes émotionnelles.
Ouais.
Alors, lesquelles?
Pour l'instant, nous, on est dans l'étape, je ne saurais jamais siffler avec mes doigts.
Moi, je suis dans l'étape déception.
Ça démarre par la curiosité, je pense, ce truc-là de vouloir apprendre. Après, il y a les premiers résultats, comme vous avez eu
tout à l'heure,
où il y a un peu d'excitation de se dire « Ok, je suis en train d'y arriver ». Puis quand on réussit, il y a vraiment ce bonheur qui est
ouais,
vraiment énorme.
On n'y a pas accédé.
Et puis, petit à petit, on va commencer à avoir des doutes parce que bah, ça va moins marcher, ça, on ne comprend pas. Donc il y a le doute. Ensuite, il y a un peu de déprime. Ça peut vraiment passer des fois par une semaine, deux semaines ou juste une heure. Il y a une phase de déprime. Et puis, à force de trouver, de chercher des solutions, bah, on va avoir un peu de soulagement et on va de nouveau refaire la course, c'est-à-dire excitation, bonheur, doute. En fait, c'est des montagnes russes, hein, les émotions liées à l'apprentissage. C'est que ça fait que descendre et que remonter tout le temps. Quoi.
Alors, on entend souvent des gens dire, on en a entendu chez Clément tout à l'heure dans son micro-trottoir, mais moi, j'ai une mémoire visuelle, il faut que je regarde les choses tant de fois ou que je me fasse des jeux de mots. Enfin bref, parlons de la mémoire visuelle. À quoi ça correspond? On a tous, en tout cas, une dominante d'apprentissage, que ce soit auditive, visuelle ou autre chose.
Normalement, on a tous une dominance. Moi, je dirais qu'on a tous une dominance visuelle parce que nos ancêtres, quand ils chassaient à la préhistoire, ils avaient besoin de repérer les choses visuellement. Donc, on est majoritairement visuel, mais il y a quand même des gens qui se disent auditifs, notamment dans la musique et tout. Donc, on a des prédominances. Maintenant, le but, c'est de réussir à travailler avec les trois. Donc, il y a aussi kinesthésique.
Ça veut dire quoi exactement?
Alors, par exemple, moi, quand j'apprends quelque chose, si on me le dit par l'oral, je retiens rien. Donc, on peut me le montrer, donc c'est du visuel. Mais le mieux pour moi, c'est vraiment de me mettre dans la pratique directement. Donc, par exemple, si je veux apprendre à lancer un ballon de basket, je vais tout de suite être sur la sensation. Donc, la sensation du ballon, la sensation de comment ça fait quand je le lance. Donc, je préfère être dans le moment et dans
le mouvement.
Ouais, dans le mouvement, en fait.
D'accord. Clément, vous êtes comme ça aussi?
Alors, je sais pas. Moi, j'ai un truc, c'est que je me fais beaucoup de phrases pour les retenir. J'ai besoin de ça. Par exemple, je dis n'importe quoi. Ce matin, j'en ai encore inventé une pour retenir tous les rois de France. J'ai une phrase qui est je vais voir la mer. Caro m'a dit, donc Caro c'est ma chérie, Caro m'a dit t'es pas cap, va plutôt me chercher du bourbon qui est du vin. Et en fait dedans il y a tous les rois de France, enfin les familles de rois.
Caro.
Je vais voir la mère mérovingien,
ah oui,
Caro m'a dit
carolingien,
et je les ai dans l'ordre comme ça. Après t'es pas cap les capétiens, va les Valois,
ouais.
Et bourbon
super,
les bourbons.
C'était quoi le but de retenir les rois de France ce matin au réveil,
les avoir dans l'ordre. Je me suis dit tiens, je connais pas ça, et en fait en ayant cinq mots je me fais une phrase. Et là, par exemple, depuis ce matin, et tous les 2-3 jours, je réapprends un truc comme ça. Et le jour où ça sort, je me dis, tiens, j'ai cette phrase.
Vous pourriez être frères jumeaux tous les deux, en fait. Bah, non, il y a quelque chose.
Je suis passionné par ça, je trouve ça.
J'arriverai déjà pas à retenir la phrase pour vous aider à retenir le truc.
Ah, oui. Dès que la phrase a quelque chose de personnel.
Voilà, là, c'est un problème cérébral, Julien, mais on pourra en parler tout à l'heure, si vous voulez.
Non, alors justement, peut-être que ça peut aider aussi, parce que dans votre livre, vous dites que le sommeil est une arme pour bien apprendre. Non?
Oui, c'est ça. Oui.
Et moi, j'adore dormir. comment ça fonctionne concrètement?
En gros, c'est. Vous connaissez tous la musculation. Quand on va à la musculation, on casse des fibres musculaires.
Clément, moins que.
Moi, je connais moins la muscu. Je connais plus les rois de France.
En fait, le muscle, il ne se crée pas au moment où on casse la fibre. Il se crée dans la phase de repos. Dans la phase de repos, le muscle va essayer de reconstituer les fibres pour justement grossir et être plus à même de supporter la prochaine séance. En fait, quand on apprend, c'est un peu exactement pareil. C'est-à-dire qu'on va casser des fibres, on va dire, dans le cerveau. Et c'est pendant le repos qu'elles se reconstituent et qu'elles trouvent des solutions. Donc, en fait, si on ne dort pas.
Solide la mémoire, en fait. Hein, c'est ça.
Donc, si on ne dort pas, en fait, il n'y a pas cet effet sur le cerveau. Et en fait, on peut passer une journée à pratiquer. S'il n'y a pas ce sommeil-là après, il n'y a pas finalement d'évolution.
On ne consolide pas.
Non, on ne consolide rien, en fait. Donc, le sommeil, c'est vraiment la clé. Et on peut même jouer avec ça en faisant des siestes. Et par exemple, on apprend. Et puis ensuite, on fait une sieste de 10 minutes. On continue de réapprendre. Et ça peut être très important.
Vous, c'est vraiment quelque chose d'important, le sommeil, dans votre justement vie trépidante d'apprentissage.
Comme tout le monde, j'aime dormir. Oui,
vous dormez beaucoup plus que les autres, vous croyez?
Non, pas plus que les autres. Mais moi, je fais des micro-siestes. Et ouais, j'ai toujours mis une importance au sommeil, notamment pour les rêves et tout, parce que j'adore rêver aussi, les rêves lucides, comme j'ai appris sur ma chaîne. Donc c'est hyper important, le sommeil.
Et quand je dis à mon fils, révise ta leçon d'anglais avant d'aller dormir, est-ce que c'est une bonne idée?
Ouais, c'est pas du tout un truc... on me l'a dit aussi quand j'étais jeune, donc je sais que... Bon, je suis toujours jeune, mais quand j'étais petit, on me l'a dit. Et effectivement, c'est une vraie chose, parce que finalement, le cours va mieux se consolider dans la mémoire à long terme, donc c'est important. Alors, il ne faut pas forcément le faire 10 minutes avant de dormir.
Oui.
Mais au moins dans la soirée, ça suffit, quoi.
Alors moi, j'adorerais apprendre plein de nouvelles choses comme vous. Siffler, on verra. J'essaierai dès ce soir. Je vais prendre 6 heures comme ça de sommeil, peut-être les amputer pour apprendre à siffler. Mais bref, à même apprendre autre chose, les échecs. J'aimerais apprendre des langues étrangères. Mais je me dis juste, j'ai pas le temps d'apprendre, en fait, dans une vie bien remplie, à la fois professionnelle et de famille. À quel moment on a le temps d'apprendre, en fait?
Il y a plusieurs stratégies. Moi, j'ai une stratégie qui était d'apprendre dans les moments de temps mort. Donc, par exemple, le métro, je passe 40 minutes dans le métro, je peux faire du Rubik's Cube, je peux faire ça pendant une salle d'attente pour le médecin. Il y a toujours du temps un peu mort dans
la
journée. Ensuite, il y a un truc qui est hyper important, c'est le temps qu'on passe sur le téléphone. C'est 3h30 en moyenne par jour. Moi, c'est 6h parfois, hein, clairement. Mais du coup, il suffit d'enlever une demi-heure, bah, ça nous libère une demi-heure. Et en fait, une demi-heure, ça suffit pour pratiquer. Moi, ce que je dis, c'est que c'est la régularité la plus importante. Donc, en fait, ça ne sert à rien de chercher 4 heures par jour, vous ne les trouverez pas. Mmh. Mais si vous cherchez 30 minutes, mais que vous les faites tous les jours, là, vous allez avoir du progrès.
Donc, si je vais apprendre le chinois, eh ben, je passe. Non, mais pourquoi pas ?
Oui, bien sûr.
Je passe une demi-heure.
Je rigole parce que je m'imaginais apprendre à siffler dans le métro. Je suis obligée d'enlever mon masque. Donc, déjà, ça ne va pas plaire aux gens. Et puis, j'aurais l'air vraiment.
Mais justement, je suis dans le métro. J'ai 40 minutes de trajet.
Pour le chinois, c'est bien.
Bien sûr.
Et je peux peut-être me télécharger une appli. Et au lieu d'être sur mon téléphone, eh ben, j'écoute 40 minutes par jour de chinois. C'est la régularité qui finit par payer.
L'apprentissage, c'est un choix, en fait. Le temps. Enfin, si vous voulez dédier du temps pour l'apprentissage, c'est un choix. Donc vous décidez de ne pas le mettre sur autre chose qui est inutile comme le téléphone ou ce genre de choses.
Bon, admettons, je vais apprendre quelque chose qui est peut-être plus compliqué à faire dans le métro, apprendre à jouer au basket, ne serait-ce que. Non, plutôt au foot, on dirait, parce que moi, tout le monde est passionné de foot dans la famille, moi, j'y connais même pas les règles. Donc déjà, ne serait-ce qu'apprendre les règles du foot, ça, je pourrais le faire, mais il me faut combien de temps en tout pour vraiment être une championne des règles du foot? Il faut que je compte combien en tout, même si c'est une demi-heure par-ci, une demi-heure par-là, en combien de temps?
Si c'est juste pour les règles du foot, en une journée, vous pouvez les comprendre.
Attendez, le hors-jeu, c'est vachement compliqué.
Non, mais disons que ça, c'est pas le plus compliqué. Après, pour devenir très fort en foot, ça va dépendre d'une chose.
Mais moi, je pourrais devenir forte en foot.
Bien sûr.
Non, mais à quel point
Non, mais c'est pas
fait,
les règles.
Il y a pas de limite. C'est juste que les gens se limitent par leur mental, mais en fait, il y a pas de limite. C'est-à-dire que si là aujourd'hui vous vous arrêtez Europe 1, je vous le souhaite pas, mais vous décidez de faire que du foot, si vous pratiquez tous les jours pendant, je sais pas, plusieurs années, effectivement, vous allez devenir très forte.
Elle pourrait être commentatrice sportive.
Ouais. Bien sûr. Ouais. Il n'y a pas de limite.
Que,
le nombre d'heures, en fait, ça va dépendre de l'objectif que vous fixez. Si vous dites, je veux juste savoir faire un jongle en foot, ça va vous prendre peut-être 10 heures. Si vous dites, je veux devenir championne de foot, ça va vous prendre 10 ans. Donc, en fait, ça dépend de l'objectif que vous voulez atteindre. Et moi, c'est ça qui est aussi que je dis, c'est que tout le monde n'a pas vocation à passer 10 000 heures pour devenir expert. Bien en sûr, fait, on peut juste se faire plaisir, apprendre à jongler, ça prend 5 heures et puis on passe à autre chose.
Pour épater les copains.
Oui, voilà.
Alors, pour booster son apprentissage, vous conseillez de se mettre en mode jeu vidéo. Ça consiste en quoi exactement?
En fait, quand on joue à un jeu, généralement, il y a un arbre de compétences. Et les compétences, on les débloque avec, par exemple, un peu d'expérience ou avec des items qu'on va trouver. Et en fait, c'est brique par brique, jusqu'à atteindre le niveau où, par exemple, si c'était être, je sais pas, très furtif dans le jeu vidéo, bah, on va atteindre le niveau ultime de la furtivité. Mais avant, il y a plein de petites briques. Et en fait, l'apprentissage, c'est exactement comme ça. C'est-à-dire qu'il faut réussir à déconstruire un apprentissage en mini-étapes, donc c'est-à-dire de vraiment les trucs les plus simples.
Par exemple, la guitare, je vais apprendre la guitare, c'est quoi les briques de la guitare alors?
Les briques de la guitare, ça va être déjà les accords. Quels sont les accords fondamentaux? Et s'il n'y en a que 4, bah, je peux me concentrer sur ces 4-là. Donc je vais d'abord apprendre un accord, ensuite deuxième accord. En fait, c'est vraiment décomposer les
mais
étapes.
On peut vraiment tout apprendre parce que moi, je ne suis pas très douée en motricité fine. Par exemple, là, on parle de guitare et je sais que je n'ai jamais réussi à enfiler des perles quand j'étais petite. Ouais. Est-ce qu'il n'y a pas des choses pour lesquelles on n'est pas fait du tout quoi?
Moi, je ne pense pas. Je pense que c'est juste une limitation dans la tête, dans le sens où moi, je pense être mauvais en bricolage, mais en vrai, je sais que c'est pas vrai.
Je sais pas chanter, je sais pas aligner
mais
deux notes de juste.
Que, je suis sûr que vous pouvez chanter en fait.
Moi, et la phoniatre, l'autre jour dans l'émission Bien fait pour vous, nous a dit que c'était possible.
C'était juste
en fait, le chant c'est particulier, on a vraiment ce mythe que c'est un talent ou que c'est inné. Mais en fait, c'est pas le cas en fait. Il y a des gens juste qui aiment ça très jeune, donc ils pratiquent rapidement. Mais c'est uniquement la pratique qui leur fait avoir un bon niveau en chant.
Clément ?
Je mettrai un bémol sur le chant puisqu'on m'avait dit ça. Il y a un prof de chant qui m'a dit tout le monde peut y arriver.
Ouais.
Et j'ai pris 3 heures de cours et qui m'a dit ah, effectivement, il y a des exceptions.
Non mais 3 heures, c'est pas suffisant, Clément.
Ah, c'était pas, un bon prof.
J'espère.
C'est pas un bon prof. Et puis c'est pas gentil de dire ça en plus.
Merci pour cette réponse.
Allez, Guillaume alias Super Echo, surtout vous ne bougez pas. On a encore quelques questions pour vous, pour nous aider à devenir nous aussi des experts de l'apprentissage. Et je vous rappelle qu'on vous donne la parole dans Bien fait pour vous. Vous pouvez nous poser vos questions sur la méthode de notre invité ou même sur notre sujet suivant, sur l'endométriose. Il suffit de nous laisser un message au 3921, notre répondeur ou encore sur le compte Instagram de l'émission. A tout de suite sur Europe
11h, 12h30 sur Europe 1. Bien fait pour vous.
Julia Vignali et Mélanie Gomez.
Vous écoutez Europe 1, c'est bien fait pour vous. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. On tente ce matin de devenir des experts de l'apprentissage. Apprentissage vraiment au sens large, puisqu'on détaille votre méthode, Guillaume, alias Super Echo, H-E-C-O. Je rappelle que vous êtes youtubeur et l'auteur du livre Le Guide Ultime pour tout apprendre et devenir un super héros aux éditions First. Alors, il y a un outil dont vous parlez dans le bouquin pour mémoriser facilement. Oui. C'est de trouver un palais mental. De quoi s'agit-il concrètement?
Alors, déjà, vous donnez 10 mots que j'ai dû retenir hier, que mes abonnés m'ont donné. Fourchette, canalisation, décapotable, rhododendron, suppositoire, asticot, tournevis, chocolat.
Il n'a pas de notes, hein,
pédoncule, je précise. Et saucisse lentille.
Pas mal, parce que ça n'a rien à voir quand même. Alors,
ok, bien donc, joué. Comment vous avez fait pour vous souvenir? En plus, ils ne sont pas simples.
Non, c'est clair.
Donc, j'ai un palais mental. Un palais mental, ça se crée, mais c'est un endroit que vous connaissez. Donc moi, j'utilise mon appartement. Donc c'est l'appartement, je le visualise dans ma tête. Donc en fait, je m'imagine me déplacer dans mon appartement. Moi, j'ai 25 points de repère chez moi, donc là, j'en ai utilisé que 10. Et du coup, par exemple, mon premier point de repère, c'est mon tiroir quand je rentre. Donc je le visualise. Et donc dans ce tiroir-là, j'imaginais une fourchette énorme qui essaye de sortir. Ah. En fait, pour chaque mot, j'ai utilisé une image forte liée à l'endroit où c'était sur le point de repère, pour que ça soit marquant. Parce que si j'avais juste imaginé une fourchette dans un placard,
ça suffisait pas.
Ça suffisait pas. Faut que j'imagine une action qui est marquante.
Et que ce soit ancré dans un truc de votre quotidien.
Ouais,
alors,
donc c'est ancré dans un endroit que je connais par cœur, mon appartement. Et un palais mental, ça peut être une ville, ça peut être vraiment énorme. Hein. C'est vraiment là, on commence un truc simple, une chambre ou un appartement. Mais on peut faire. Moi, j'en ai un dans ma ville aussi. Donc ça peut vraiment être infini. Donc on se crée ça mentalement et ensuite on fait des associations et des histoires marquantes avec les différents mots qu'on veut retenir.
Et là, par exemple, à un moment donné, vous avez hésité, vous étiez en train de vous refaire le chemin chez vous.
Ouais, j'ai fermé les yeux parce qu'en fait, pour se remémorer, c'est plus efficace de fermer les yeux. Donc, ça me permettait de me revoir. Ah oui, là, je me rappelle, il y avait l'asticot qui sortait de la poubelle, etc.
En fait, c'est génial.
Bah ouais. Ça, on peut faire ça pour retenir les dates d'histoire, pour retenir les prénoms. Mmh. Enfin, c'est assez infini. Et par exemple, moi, j'ai fait un défi où je retenais 25 plaques d'immatriculation.
Oula, ça,
donc,
c'est
pour
dur.
Pour pouvoir les retenir, j'ai créé en fait des tables de rappel et des PAO, donc personnages, actions, objets. En fait, c'est simplement que pour tous les nombres, j'ai créé un tableau où il y avait l'association précise. Par exemple, pour 12. Mmh. C'est Hercule, les 12 travaux, bah, j'imagine Hercule. Du coup, ça me permettait en fait pour chaque nombre d'avoir un personnage. Bah,
25, vous avez dit là, comme ça ?
Ouais.
C'est long, hein, dis donc.
Ah, ouais. C'était long.
Et c'est bien, ça muscle. Hein, ça muscle...
Bah, en fait, c'est hyper important pour le cerveau. C'est quasiment du sport cérébral.
Bah, oui.
Donc, ça revient à limiter les maladies, à éviter le vieillissement des cellules.
Ouais, pour votre cerveau, c'est extraordinaire. Hein. C'est une gymnastique mentale
c'est
qui
génial.
Est fabuleuse. Mais en quoi c'est plus facile de retenir Hercule que le chiffre 12 en lui-même ?
Bah, parce que si vous devez retenir les 1000 décimales de pi, le chiffre 12 dedans.
Oui. Enfin, ça...
non, mais que si vous retenez des histoires, en fait, si vous retenez des personnages avec des histoires, en fait, c'est ça qui va vous marquer. Parce que, par exemple, s'il y a 12, 24 et 0,5, bah 12 c'est Hercule, 24 c'est Jack Bauer dans 24 heures chrono, et 0,5 c'est Bruce Willis dans.
Et chacun ses références.
Donc, en fait, moi je me crée des histoires avec ça, et en fait, c'est assez efficace.
C'est dingue, Clément.
Et alors, justement, il n'y a pas un risque, si on apprend quelque chose par-dessus, de revenir sur la précédente. Vous prenez l'exemple du tiroir.
Ouais.
Si dans une heure on se recroise, et vous avez 12 nouveaux trucs à retenir, mais là, vous avez déjà mis quelque chose dans le tiroir. En fait, si vous mettez quelque chose par-dessus, ça risque pas d'embrouiller
mais non,
votre cerveau.
Il y a plusieurs tiroirs.
Alors, en fait, c'est pour ça qu'on crée plusieurs palais mentaux.
Okay.
Donc, moi, j'en ai plusieurs. Mais
vous n'avez pas que votre appartement.
Non, j'ai pas que l'appartement.
Ça peut être quoi d'autre la
ce
ville.
Que je dis, c'est que j'en ai un dans ma ville. J'ai un trajet dans ma ville de 10 endroits. Et en fait, il suffit de. Moi, je sais que je l'ai fait des fois, c'est-à-dire que j'ai réappris sur le même palais mental. Donc, ça remplace l'autre, effectivement. Mmh. Si vous le faites dans l'heure,
il n'y a pas de confusion.
Mais ça ne fait pas de confusion.
Et vous avez fait quel genre de scolarité, vous ?
Classique.
Mais vous y êtes bien arrivé avec l'école ou...
J'étais moyen. Enfin, ça allait, quoi. J'ai eu des mauvaises notes et des bonnes notes. Je n'ai pas été un mauvais élève, mais j'ai
mais
jamais.
Vous êtes appuyé déjà sur cette méthode ?
Bah non, justement, je n'avais pas ça, moi, à l'école.
Vous avez fait des études de journalisme, je crois, en plus.
Oui, c'est ça. Ouais.
Bah, voilà. Mais ça pourrait aider tous les jeunes qui nous écoutent et qui ont du mal à.
C'est un peu ça aussi l'idée. C'est que moi, j'ai envie que. Plus on est jeune, plus on a accès à ce genre de choses, les palais mentaux, même comment apprendre, débloquer des compétences. Enfin, c'est...
On a une question de Stéphanie sur Twitter. Elle dit « J'adorerais connaître toutes les plantes quand je me promène en forêt, par exemple, reconnaître toutes les espèces, ça me fascine, mais il y en a tellement. Est-ce que c'est possible, selon vous ? Je me suis acheté une encyclopédie, mais il y en a tellement. Est-ce que vous auriez un truc pour simplifier ça ?» Moi, je connais une appli. Hein,
c'est marrant parce que je viens d'apprendre à reconnaître 14 plantes récemment. Et donc, bah, j'ai utilisé le palais mental, clairement. J'ai utilisé ça, j'ai utilisé les associations, j'ai créé par exemple des... Parce qu'on, moi, je devais retenir le nom français et le nom latin, donc le genre et l'espèce.
Ouais.
Et donc, bah, j'ai utilisé pareil des associations et des images. Donc, c'est possible, mais si elle veut retenir, je ne sais pas, imaginons 300 plantes, donc il faut qu'elle imagine qu'elle puisse créer 300 endroits dans des palais mentaux.
Ouais.
Ça peut paraître énorme, mais en fait, ça va juste être progressif. Elle ne va pas commencer par 300 plantes. Si elle se fait 10 plantes par semaine déjà... Bah ça va le faire en fait. Faut juste qu'elle, c'est comme sur le truc de la progressivité et des briques. Faut pas, si elle veut apprendre 300, faut pas qu'elle commence par 300. Même une par jour, en fait, ça suffit. Faut juste se dire que c'est du long terme, c'est de la régularité et c'est comme ça qu'elle va y arriver, mais c'est largement possible. Il y a plein de gens qui le font, quoi.
On a un auditeur qui témoigne. Là, c'est pas une question, c'est Anthony Sigart en Australie qui nous dit « J'apprends le français en vous écoutant maintenant. Merci beaucoup. » Europe 1 peut servir d'une certaine façon d'apprentissage, hein, c'est ça. On nous
faut l'écouter tous les jours.
C'est tous les jours, c'est ça qui est important. C'est la régularité, vous
c'est
avez
ça.
Dit. Vous dites dans votre bouquin qu'il y a deux types d'esprit dans le livre. Expliquez-nous ce que vous entendez par là.
Alors, c'est pas moi qui ai théorisé ça, c'est Carol Dweck. Donc c'est la théorie de l'esprit fixe et l'esprit croissant, on en parlait tout à l'heure. L'esprit fixe, c'est de considérer que notre QI, notre intelligence, tout ça est fixe et ça ne peut pas évoluer et que forcément les gens, ils ont du talent, c'est inné, c'est des génies, donc en fait, ils n'ont rien fait pour, ils sont comme ça. Donc ça décourage les gens de travailler et ils se disent, je ne peux pas rivaliser. L'esprit croissance, c'est l'inverse, c'est de se dire qu'il n'y a pas de talent, il n'y a pas de génie et que tout s'apprend par la pratique délibérée. Donc moi, on est tous un peu un mix des deux. Il y a des domaines où on se considère esprit fixe, moi c'est le bricolage, où je me dis je suis nul, je ne suis pas fait pour ça. Puis après, moi je suis esprit croissant sur l'ensemble des autres choses que j'apprends parce que je sais que c'est possible. Donc l'esprit croissance, c'est juste réussir à se dire que bah, en fait, tout est possible d'apprendre, il n'y a pas vraiment de limite, c'est juste voilà, avoir la bonne méthode, décomposer la compétence, etc. Quoi.
Eh bien merci beaucoup. Guillaume, Mélanie, essayez de siffler un coup. Attendez, pour voir si ça marchait. Ouais, ah bon, il y a encore du boulot.
Voilà, ah, attends, ça fait 20 minutes et j'y suis presque.
Un léger filet de bave. Alors, en tout cas, merci Guillaume pour cet éclairage sur votre méthode d'apprentissage qui permet donc de ne plus avoir de limites, qui nous ouvre un champ des possibles presque infini. Ça fait toujours du bien de se sentir capable déjà, tout simplement. Merci à vous.
Merci pour cet entretien très positif. On va à présent changer totalement de sujet. On va vous proposer un focus sur l'endométriose, cette maladie qui touche de nombreuses femmes. On en parle de plus en plus. Même le président Emmanuel Macron s'est emparé de ce sujet il y a quelques jours. Alors, comment mieux vivre avec cette pathologie? C'est notre dossier santé du jour.
Europe 1, 11h30.
Mélanie Gomez et Julia Vignali.
C'est le moment d'accueillir notre invité santé aujourd'hui. C'est vous, docteur Marc Even. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes gynécologue obstétricien à l'hôpital Foch à Suresnes et cofondateur des centres .gyn. Alors justement, dans ces centres dédiés aux femmes, qu'est-ce que vous leur proposez concrètement ?
Alors, merci pour l'invitation. Les centres .gyn, c'est des centres dédiés à la santé de la femme que j'ai cofondé avec les docteurs Frédéric Isnard et Jérôme Boisise. Aujourd'hui, une femme n'a pas besoin, dans son suivi, voir son gynéco ne suffit pas. Elle doit avoir recours à un ensemble de professionnels de santé. C'est pour ça qu'on a créé ces centres qui vont regrouper des médecins, mais aussi des praticiens paramédicaux qui vont proposer une prise en charge globale et multidisciplinaire aux patientes.
Mais adaptée à la femme, hein,
adaptée à la femme.
Mais moi, j'aimerais savoir qui sont ces multidisciplinaires, par exemple.
Alors, qui sont ces multidisciplinaires? Il y a l'ostéopathe, la kiné, la sophro, la psychologue. Donc, par exemple, dans les parcours de soins qu'on propose, en fertilité, en endométriose, vu que c'est le sujet du jour, et la patiente, elle verra évidemment son gynécologue, mais également l'ostéo, la psychologue, pour toute la prise en charge globale de cette pathologie. Et cette prise en charge globale, on est en train de la décliner dans d'autres spécialités au sein du groupe One Clinic aujourd'hui.
Très bien. Alors avant d'entrer dans le détail, peut-être un petit rappel anatomique pour ceux qui ne sauraient pas du tout ce que c'est. C'est quoi l'endométriose et c'est quoi même l'endomètre justement?
Alors, on va commencer par l'endomètre. L'endomètre, c'est la muqueuse qui tapisse la cavité utérine. Donc chez la femme, cet endomètre, chaque mois, est éliminé au moment des règles. Et l'endométriose, c'est la présence d'endomètre en position ectopique, c'est-à-dire en dehors de l'utérus. Donc c'est l'endomètre qui va aller en dehors de la cavité utérine et qui va migrer à l'intérieur du ventre, au niveau de la vessie, du tube digestif, ou donner des adhérences ou des kystes au niveau des ovaires.
Et combien de femmes sont atteintes en France, en tout cas celles qui sont diagnostiquées à ce jour ?
2,5 millions.
2,5 millions, c'est énorme. Ça fait une femme sur combien là qui souffre ?
10 à 15% des femmes en âge de procréer.
Et encore, on sait que c'est sous-diagnostiqué aujourd'hui, hein, c'est ça. Ouais. Vous dites qu'il n'y a pas même une endométriose, mais des endométrioses. Mmh. C'est encore plus complexe que ce qu'on peut imaginer, alors.
En gros, il y a autant d'endométrioses que de patientes.
Et donc, des prises en charge qui ne peuvent pas être les mêmes, on est
d'accord. Ce qui est difficile aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de corrélation anatomo-clinique. C'est-à-dire qu'il y a des patientes qui vont être extrêmement douloureuses. Et pour la même lésion, une autre patiente va être totalement asymptomatique. C'est pour ça qu'il y a cette errance diagnostic, et le diagnostic est aussi difficile.
Alors, on sait qu'il y a des facteurs de risque pour cette maladie. Est-ce qu'on peut dire que c'est une maladie familiale déjà, que ça se transmet de mère en fille?
Alors, non. C'est une maladie multifactorielle. Effectivement, il y a des facteurs génétiques. Moi, j'ai des patientes que je suis mère-fille ou des cousines germaines. Aujourd'hui, il n'y a pas de gène identifié dans l'endométriose, mais effectivement, il y a une hérédité familiale. Il y a d'autres facteurs liés aux règles. Par exemple, une patiente qui va avoir les premières règles assez tôt, 9-10 ans, avec des règles abondantes, ça c'est un facteur de risque, ou des facteurs notamment liés à l'environnement, notamment les perturbateurs endocriniens.
Ah oui, ça favorise les endométrioses.
Ouais, c'est,
on sait qu'il y a plus d'endométriose, peut-être, je ne sais pas, dans nos pays occidentaux par rapport à d'autres pays, ou est-ce qu'il y a l'endométriose partout dans le monde?
Non, il y a partout dans le monde. On a la chance dans les pays occidentaux de pouvoir la diagnostiquer par des examens d'imagerie, justement.
Et alors, quels sont les signes ou les symptômes qui doivent faire penser à l'endométriose? J'imagine que ça peut commencer très jeune. Donc, qu'est-ce qui doit nous alerter?
Alors, aujourd'hui, ce qui doit nous alerter, c'est qu'il ne doit pas y avoir une banalisation de la douleur. On ne peut pas dire aujourd'hui à une ado au collège qui sèche les cours deux jours par mois, voilà, c'est normal.
T'as tes règles, tu morfles. Ça, c'est voilà. pas logique.
Aujourd'hui, il faut démystifier justement les règles. Et il faut, aujourd'hui, parler de ces règles, c'est toujours tabou. Donc, ce qui doit alerter, c'est une patiente ou une ado qui présente des règles extrêmement douloureuses au point de sécher les cours.
Parce qu'avoir un petit peu mal, ça peut être normal voilà. d'être un peu dérangé au niveau du ventre.
Mais un absentisme scolaire, un absentisme au travail, ça doit alerter. Mm-hmm. Et après, il y a d'autres symptômes, notamment les dyspareunies, des douleurs pendant les rapports en profondeur, ou des symptômes digestifs pendant les règles, diarrhée, constipation, des symptômes urinaires, par exemple des infections urinaires, ou des difficultés à uriner pendant la période de règles, ça doit
alerter. Mais le problème, c'est que même les médecins, à une époque, nous disaient bah, « t'as mal, c'est normal, hein, si moi je m'en rappelle bien ». Les médecins sont en train de changer, d'évoluer là-dessus
exactement.
Aussi.
Exactement, il y a un problème de formation, moi je ne suis pas si vieux que ça.
Si je puis me permettre, c'était souvent des médecins hommes qui disaient ça.
Ils nous disaient bon, « bah, c'est normal, hein, t'es jeune, t'as mal, bah oui, t'as mal quand t'as tes règles, comme tout le monde ».
En tout cas, c'est en train d'évoluer parce que la formation évolue aussi. Moi, j'étais... pendant mes études de médecine, je n'ai jamais entendu parler de cette pathologie.
C'est pas si loin que ça, pourtant, vos études de médecine. Ouais.
C'est pas si loin que ça. Après, j'ai eu la chance de passer interne dans des services spécialisés où je me suis formé. J'ai connu cette pathologie. Et aujourd'hui, voilà, on a la chance de pouvoir former
les
nouvelles générations. Ouais.
Alors, docteur Even, on va se retrouver dans un court instant. On n'en a pas fini avec vous. On va continuer à parler d'endométriose et on va passer notamment au traitement de cette maladie. Vous l'entendrez, on ne traite pas toutes les femmes atteintes de la même façon. On ne prend pas en charge cette pathologie à l'identique à 18 ans ou à 35 ans, par exemple. On va vous détailler tout ça. Alors, restez avec nous sur Europe 1.
11h, 12h30 sur Europe 1. Bien fait pour vous.
Mélanie Gomez et Julia Vignali.
Vous êtes sur Europe 1 et c'est bien fait pour vous en direct jusqu'à midi et demi. C'est votre émission Bien-être tous les matins. Et là, tout de suite, nous sommes en plein dans notre dossier santé du jour dans lequel on vous dit tout sur l'endométriose aujourd'hui. Alors pour y voir plus clair, nous avons fait appel ce matin au docteur Marc Even. Je rappelle que vous êtes gynécologue obstétricien à l'hôpital Foch à Suresnes et cofondateur des centres.gyn. On va passer à présent à la consultation et justement pour diagnostiquer une femme atteinte d'endométriose de façon certaine, quels sont les examens que vous allez faire?
Donc après un interrogatoire quasi policier, on va lui prescrire des examens d'imagerie. Donc l'examen de première intention, c'est l'échographie pelvienne, qui va permettre de rechercher par exemple des kystes au niveau des ovaires. Et après, le second examen qu'on peut prescrire, c'est l'IRM pelvienne, qui va permettre de faire une cartographie précise des lésions d'endométriose.
Alors on l'a dit, vous êtes donc le cofondateur de Point Gyn, des centres dédiés à la santé des femmes. On a justement une auditrice sur Instagram qui nous demande, Anne-Laure, pardon, où trouver ces maisons spécialisées en endométriose? Merci. Donc où est-ce qu'on trouve les Point Gyn en tout cas?
Alors les Point Gyn actuellement, c'est en Ile-de-France, dans les Yvelines, dans les Hauts-de-Seine et sur Paris. On est en train de se développer là sur le plan national, notamment à Bordeaux, Marseille et Strasbourg.
Très bien. Alors aujourd'hui, on est d'accord, on dépiste encore beaucoup trop tard cette maladie. On l'a dit tout à l'heure, toutes les femmes atteintes ne sont pas forcément diagnostiquées ou trop tardivement. Il y en a beaucoup qui disent, moi j'entends des fois des copines qui disent, on vient de me diagnostiquer, là aujourd'hui j'ai 34 ans et j'ai découvert que j'ai de l'endométriose. Comment c'est possible de passer à côté pendant tant d'années?
Alors effectivement, le délai moyen en France, il est de 7 ans.
Waouh.
Alors, on passe à côté parce qu'il y a un manque de formation. Et après, souvent, les patientes sont mises sous pilule très tôt.
Oui.
Donc, à partir du moment où elles sont mises sous pilule, en fait, les douleurs
symptômes s'arrêtent,
sont sous silence. Et au moment du désir de grossesse, la patiente va arrêter la pilule et il va y avoir une recrudescence des symptômes douloureux. Et ça arrive fréquemment qu'on fasse le diagnostic à 30, 35 ans.
Oh là là. Alors, c'est quoi véritablement les conséquences pour la vie de la femme qui apprend qu'elle est atteinte d'endométriose? Vous parliez tout à l'heure d'absentéisme au travail. Pourquoi? Parce que les douleurs sont insupportables?
Effectivement, il y a un retentissement sur la vie professionnelle avec un absentéisme au travail du fait des douleurs chroniques très invalidantes. Donc, il y a vraiment un impact énorme sur la qualité de vie.
Et sur la vie sexuelle aussi?
Exactement. Ouais. Retentissement sur la vie de couple et retentissement sur la vie sur la sexualité de la patiente, puisqu'il peut y avoir une atteinte en arrière de l'utérus. On ne va pas rentrer dans l'anatomie, mais il y a des ligaments en arrière de l'utérus. Et quand il y a une atteinte de ces ligaments, ça peut entraîner des douleurs en profondeur pendant les rapports et donc tout à fait altérer la sexualité.
Et pour les jeunes femmes qui veulent avoir des enfants, c'est le parcours du combattant d'avoir l'endométriose?
Alors, c'est le parcours du combattant, mais il ne faut pas être non plus alermiste. L'infertilité dans l'endométriose, c'est à peu près une femme sur trois. C'est-à-dire qu'il y a deux femmes sur trois qui conçoivent.
On a Lucie, le 39-21, qui nous a laissé un message. Elle a dit, est-ce que c'est systématique d'avoir des problèmes d'infertilité? Elle dit que sa fille vient d'être diagnostiquée à 17 ans et qu'elle est très inquiète pour elle pour la suite.
Non. Il faut rassurer votre auditrice. Ça concerne une femme sur trois et l'infertilité en fait dans l'endométriose, c'est dû à l'atteinte au niveau des ovaires, ensuite aux adhérences. Il peut y avoir des adhérences, par exemple, entre les trompes et les ovaires, qui peuvent perturber l'interaction entre le spermatozoïde et l'ovocyte. Et il y a un climat inflammatoire dans le ventre, justement, qui empêche une grossesse spontanée.
Alors, on va voir comment traiter et soigner ces femmes. Je crois, évidemment, que ça dépend de l'âge de la patiente. À l'adolescence, par exemple, comment vous les traitez, vous, les jeunes femmes qui en souffrent?
Alors, une ado qui vient en consultation, la patiente, en général, le symptôme principal, c'est la douleur. Donc, on va commencer par un traitement antalgique, donc un traitement antidouleur. Et comme c'est une maladie inflammatoire, on va donner des anti-inflammatoires en première intention.
Pas de paracétamol alors, c'est plutôt anti-inflammatoire.
Alors paracétamol associé à des anti-inflammatoires en première intention.
D'accord, et c'est efficace en général? Ça suffit à les calmer ou pas?
Alors ça va les calmer, donc c'est un traitement symptomatique qui va soulager les règles. Et après, si la patiente n'est pas soulagée par les anti-inflammatoires, là on aura recours à un traitement hormonal, on aura recours à la pilule.
Oui, ça, à la limite, c'est peut-être, si elles en ont en plus le besoin, entre guillemets, hein, pour leur vie sexuelle, ça peut aider. Et là, une fois qu'elles prennent la pilule, c'est systématique, ça les soulage toutes?
Alors, le fait de prendre la pilule en continu, donc ça bloque les règles, et ça, c'est efficace sur les dysménorrhées, c'est-à-dire les règles douloureuses et les dyspareunies, les douleurs pendant les rapports.
Et c'est pas grave de prendre en continu pour une jeune fille une pilule comme ça?
Non, il n'y a pas d'altération, notamment sur la réserve ovarienne, il n'y a pas d'impact sur la fertilité, mais en tout cas, il y a une amélioration très nette de la qualité de vie de ces patientes. Après, évidemment, il faut trouver la bonne pilule, la pilule adaptée, parce qu'il y a certains effets secondaires qu'on constate.
Là, on a parlé des toutes jeunes filles. Admettons, on est un peu plus âgé, on a, je ne sais pas, 25 ans, on a pris la pilule pendant des années, on n'a pas pris la pilule, justement, la maladie a continué à évoluer. Est-ce que parfois, il ne faut pas quand même en venir à opérer? Quelles femmes sont les femmes qui sont indiquées pour l'opération? Pour aller retirer justement toutes ces lésions.
La prise en charge, elle doit être multidisciplinaire. Donc le traitement de première intention, on en a parlé, c'est le traitement médicamenteux. Ensuite, on a toute la prise en charge autour de l'endométriose, donc, notamment l'approche holistique. Et la chirurgie, elle est indiquée chez des patientes qui restent extrêmement douloureuses, malgré la pilule en continu et cette prise en charge paramédicale adaptée.
Et là, vous ouvrez pour aller enlever, enfin, vous ouvrez ou passez par célioscopie,
ouais,
j'imagine.
C'est par célioscopie ou par voie robotique. On va retirer les lésions d'endométriose. Donc, les lésions d'endométriose, ça va se présenter sous forme de petits nodules, de petites boules qui vont envahir le tube digestif ou la vessie.
Des ça risque pas d'endommager ce qu'il y a derrière, les vrais organes, quoi, en dessous.
Alors, il y a un risque d'altération. Quand il y a une atteinte digestive, il peut y avoir une dérivation, une stomie. Quand il y a une atteinte vésicale, on peut enlever un bout de vessie.
Oui, donc vous ne décidez pas d'opérer comme ça.
Alors, le traitement chirurgical, ça se décide
c'est
pas.
C'est la dernière intention, quoi.
En urgence, ça va se décider justement autour de staff pluridisciplinaires. Et la décision doit être collégiale. Donc, c'est vraiment une patiente qui reste très douloureuse malgré le traitement adapté.
Et vous enlevez l'utérus parfois?
Non, alors le traitement de l'endométriose, ce n'est pas l'hystérectomie.
D'accord, ce n'est pas ça.
On enlève l'utérus quand il y a une adénomyose associée. Et l'adénomyose, c'est quand il y a de l'endométriose interne. C'est-à-dire, c'est de l'endomètre qui ne va pas en dehors, mais dans le muscle utérin.
On fera une autre émission peut-être sur celle-là. Quand elles arrivent à avoir un bébé, on l'a dit, il y en a qui arrivent évidemment, c'est pas systématique l'infertilité avec l'endométriose. C'est souvent une période de répit pour ces femmes, la grossesse, c'est ça?
Exactement, on parle de période lune de miel, puisque les patientes n'ont plus de règles.
Elles voulaient un bébé, en plus elles vont mieux du côté de leur maladie, c'est
elles
génial.
Ont une grossesse,
et la ménopause aussi, elles aiment bien en général.
Exactement.
C'est génial.
Pourquoi?
Et c'est
ça
la solution? Ça s'arrête?
Alors, ça s'arrête à la ménopause. Après, il y a des cas décrits d'endométriose post-ménopausique, mais c'est très rare, 1 à 3%.
Donc ça veut dire que même si on va loin dans la réflexion, pour celles qui ne veulent pas se faire opérer parce qu'elles ont peur, il faut attendre a priori de vieillir et ça passe?
Ouais, après la ménopause, quand même 98% des patientes vont mieux.
Alors, en dehors de tous les traitements dont on vient de parler, il y a aussi évidemment certaines approches en médecine alternative qui sont proposées. Je crois que vous conseillez notamment le yoga.
Exactement. Donc le yoga, ça va permettre, dans l'endométriose, il va y avoir des douleurs chroniques, il va y avoir une congestion au niveau du ventre et ça va libérer justement les adhérences et ces tensions au niveau du ventre.
Alors dans vos centres Point Gyn, vous mettez aussi à disposition des patientes atteintes d'endométriose, des diététiciennes. Pourquoi ça? Est-ce qu'il y a des aliments à favoriser ou à éviter quand on a une endométriose?
Ouais, effectivement. Aujourd'hui, le traitement moderne, il doit être personnalisé et adapté aux patientes et la prise en charge par un diététicien est fondamental puisque le régime anti-inflammatoire va soulager les symptômes digestifs de ces patients.
Donc fini le barbecue, quoi.
Ouais, effectivement, on va éviter viande rouge, gluten, protéines au lait de vache, favoriser les aliments riches en oméga 3, les fruits et légumes
bio. Le curcuma.
Le curcuma,
ça marche bien,
vous êtes bien renseigné.
Oui, j'ai lu un truc très intéressant, c'est un livre justement, Quoi manger quand on a de l'endométriose.
Exactement, l'alimentation pro.
Inflammatoire.
Exactement.
Vous voyez, je suis bien renseignée.
Mais,
dernière question. Le président de la République a annoncé il y a une semaine une grande stratégie de lutte contre cette maladie. Vous en attendez quoi, vous, concrètement, pour les femmes atteintes aujourd'hui? C'est vraiment important.
Ouais, c'est un énorme pas en avant, ce plan national de lutte contre l'endométriose, puisqu'il y a trois axes. Il y a l'axe formation des médecins, l'axe recherche et innovation, parce qu'aujourd'hui, l'histoire naturelle de l'endométriose, elle est peu connue. Donc,
on ne comprend pas tout encore.
Exactement. Et le troisième axe, c'est les parcours de soins et notamment les filières de soins avec des centres experts pour adresser les patientes dans des centres et dans des hôpitaux
adaptés. Et
qu'elles
n'attendent plus 7 ans pour être diagnostiquées.
C'est une bonne chose.
Une bonne avancée, effectivement. Eh bien, merci beaucoup, docteur. C'était très clair et merci vraiment d'avoir répondu à nos questions sur cette pathologie féminine bien plus fréquente qu'on ne l'imagine. 10% des femmes atteintes, ça vaut vraiment le coup d'en parler.
Merci pour l'invitation.
Beaucoup, docteur. Maintenant, on va lancer la partie tendance de Bienfait pour vous. Il y aura d'abord la chronique du docteur Aurène Marco. Aujourd'hui, il va nous conseiller les meilleures techniques, nous donner ses meilleurs conseils pour lutter contre une chose un peu disgracieuse, les pores dilatés sur le visage. Ensuite, on écoutera les conseils mode de Sophie Braffman. Elle nous dit tout ce matin. Elle nous dit ce matin que le summum du branché, c'est d'arborer un smiley sur son pull ou son t-shirt. Vous savez, c'est le petit bonhomme jaune qui sourit. Et enfin, il y aura la chronique sportive du coach Jean-Marc Delorme. Ce midi, il va laisser nos muscles au repos. Enfin, il nous propose une petite sélection de cadeaux et des cadeaux sportifs quand même, mais surtout parfaits pour la Saint-Valentin. Alors à tout de suite sur Europe 1.
Europe 1, 11h30. Bien fait pour vous. Julia Vignali et Mélanie Gomez.
De retour dans Bienfait pour vous, votre magazine bien-être Feel Good, vous le savez. Dans notre émission avec Julia Vignali, notre seul but, c'est de prendre soin de vous jusqu'à midi et demi. À présent, on va lancer comme tous les jours notre table des tendances. Et donc, on va démarrer avec vous, docteur Aurène Marco. Bonjour.
Bonjour.
Vous allez nous aider à lisser un petit peu notre teint, je crois, aujourd'hui.
Ben, on va parler d'un motif de consultation très fréquent, les pores dilatés.
Pas que les hommes, hein, c'est les femmes aussi.
Les hommes et les femmes, c'est tout âge. Mais c'est vrai que c'est une imperfection qui draine beaucoup de consultations.
Ensuite, ce sera à vous, Sophie Braffman. Bonjour.
Oui, bonjour.
De la bonne humeur, enfin une mode souriante aujourd'hui.
Bon, on va essayer parce que par les temps qui courent, on ne sourit pas beaucoup. Hein, donc, on va essayer d'être un peu souriante. Et bien sûr, je vous ferai quand même un petit récap avant cette mode du smiley, de la haute couture et des défilés.
Ah, chouette.
Très bien. Et enfin, on terminera avec la chronique sportive de Jean-Marc Delorme. Bonjour Jean-Marc.
Bonjour.
Vous êtes d'humeur sportive, mais aussi sentimentale aujourd'hui, n'est-ce pas?
Oui, je viens avec plein d'idées cadeaux pour
la Saint-Valentin.
Je vois
des cœurs, des fraises.
Mais oui, romantisme et sport, il n'y a rien de tel.
Ça ne m'étonne pas de vous. Merci Jean-Marc. On vous retrouve dans quelques minutes. Mais tout de suite, on va se faire beau et belle dans Bienfait pour vous.
Europe 1, Bienfait pour vous. Les tendances.
Ah, docteur Aurène Marco, alors moi j'adore votre sujet du jour parce que les pores dilatés, c'est vraiment pas un truc glamour. Je connais des gens qui en ont.
Ils sont très bien.
Alors oui, il y a du fond de teint, mais je suis certaine que vous avez mieux dans votre besace.
Ah ben, le fond de teint, ça abîme encore plus parce que
ça
quand
rentre
vous...
dedans.
Bah, ça rentre dedans. Donc
ça les remplit,
c'est pas
pores...
terrible, ça les remplit.
Ouais.
Donc les pores dilatés, c'est vraiment une imperfection fréquente chez l'homme et la femme et c'est une demande de consultation majeure. C'est des petits trous, vous savez, sur la peau, des micro-dépressions qui sont liées au canaux pilosébacés qui sont ouverts et donc le sébum est de manière continue sécrété et donc on a vraiment un teint pas du tout uniforme. Ça arrive plutôt fréquemment au niveau de la zone T du front, au niveau du nez, au niveau du menton, donc c'est vraiment
c'est cette zone toujours un peu plus grasse. Pourquoi elle existe cette zone franchement elle nous casse les pieds. Quel facteur docteur Aurène Marco favorise l'apparition de ces pores dilatés justement?
Alors comme d'habitude en dermatologie ou en cosmétologie, on parle toujours du soleil, le vieillissement de la peau avec la déshydratation, l'hérédité aussi, on a des facteurs un petit peu héréditaires.
Dans le vieillissement, c'est vrai qu'il n'y a pas de bébé avec des pores dilatés.
Non, il n'y a pas de bébé avec des pores dilatés, il n'y a même pas d'adolescent encore avec des pores dilatés. Ça apparaît un petit peu après, j'ai l'impression. On peut avoir les pores dilatés vers 20, 22, 23 ans, une fois que l'acné est partie, que tous les facteurs hormonaux sont partis de la puberté. Mais surtout, le manque d'hydratation, c'est vraiment un facteur très important. L'utilisation des produits comédogènes ou trop agressifs sur la peau vont favoriser effectivement la multiplication des pores dilatés et c'est ça sur lequel on peut jouer.
Je comprends pas. C'est quoi un produit comédogène ?
Alors un produit comédogène, c'est un produit qui est agressivement lourd en concentration de produits agressifs, en concentration de produits trop gras.
Contre les boutons, hein, c'est
contre
ça.
Contre les boutons. Ouais. Et en fait, ça auto-entretient. Si vous avez déjà des pores dilatés et qu'en plus de ça, vous agressez votre peau, la peau va réagir en aval et va sécréter encore plus de sébum et demander.
Donc c'est le produit qui lutte contre ça qui aggrave le phénomène.
Exactement.
En fait.
Il faut toujours, quand on a un problème, finalement, avec la peau, ne pas l'agresser pour calmer les sécrétions de sébum et diminuer l'ouverture de ces micropores. Après, il n'y a pas que ça. Il y a bien se nettoyer la peau quand vous rentrez le soir, vous démaquiller parfaitement. Donc le démaquillage, on en a déjà parlé, c'est se nettoyer au savon si on veut, mais ensuite après appliquer éventuellement une huile démaquillante qui va être beaucoup plus douce et hydratante pour la peau et donc ne pas agresser. Et utiliser des bons produits, regarder la date de péremption des produits, changer. Si vous avez trouvé une routine, commencez pas parce qu'on est, on a envie de tester la nouvelle crème celle-ci ou celle-là qui a été promue par une influenceuse.
Vous nous le dites souvent, il n'y a pas besoin d'avoir 36 000 produits dans les placards.
Très simple, il faut avoir des choses simples, ne pas effectivement mettre ses doigts dans les crèmes, et c'est toujours d'acheter une crème simple avec laquelle on ne met jamais son doigt dedans. Donc,
parce que parfois il y a des peaux et moi je mets mon doigt dedans et je me dis mais...
Il y a des petites spatules.
Exactement.
Moi je la jette la spatule.
Aussi, il y a la petite spatule.
Et oui, sinon c'est un bouillon de culture les peaux.
Non, mais moi je le fais avec les mains propres quand même. Oui,
mais quand même, même si vous avez les mains propres, vous avez toujours du staphylocoque aureus sur la peau, qui est un truc basique.
Je vais mieux frotter ce soir. Le hammam et le sauna aussi, je crois que ça aggrave la situation des pores.
Et le sauna, effectivement, quand vous avez les pores dilatés, ça va encore plus ouvrir et dilater les pores.
Est-ce qu'on a le droit de se gommer quand on a les pores dilatés ?
Alors, le gommage, pareil. Le gommage, on a une tendance, c'est vrai, dès qu'on a des pores dilatés, ah, je vais faire un gommage, je vais faire un... Non, il faut gommer une fois par semaine, grand maximum, pour enlever les cellules mortes de la peau. Mais c'est pas parce que vous allez gommer que vous allez réduire la taille des pores. Au contraire, vous allez les agresser.
Alors, comment on réduit la taille de ces pores ?
Eh bien... Moi, j'ai envie de vous dire que quand en médecine esthétique ou en dermatologie, il y a moult solutions, c'est qu'il n'y en a pas une vraie qui marche bien.
Ah oui, parce qu'il y a des tas de trucs. Hein, quand on regarde dans les instituts de beauté, les instituts de médecine esthétique, on nous propose 1000 lasers, 1000 trucs
exactement,
contre les pores dilatés, mais c'est pas bon signe alors.
Exactement. Ouais. Mélanie, quand on est... C'est la même chose que pour les cernes. Vous avez 10 traitements pour les cernes, mais bon, il n'y en a aucun qui sort du lot, parce que s'il y en avait un qui marchait vraiment, tout le monde le ferait. Ouais. Donc là, on parle de, effectivement, radiofréquence, peeling aux acides de fruits, OTCA, du laser, erbium ou Fraxel pour diminuer les pores. Hydrafacial, le fameux soin nettoyant chez les esthéticiennes où on aspire en fait la peau mois pour mois, c'est bien, mais ça va quand même en agresser à nouveau vos pores. Donc du coup, on a un effet finalement rebond derrière qui continue. Donc je n'ai pas l'impression qu'on ait encore trouvé ni de cosméto, ni d'actes qui permettent de diminuer les pores dilatés.
Vous ne pouvez pas venir sur cette émission
sans solution.
qu'on va retourner dans
Je vous ai parlé d'un truc la semaine dernière qui, pour moi, est prometteur. Les études sont encore en cours et on n'a pas encore l'autorisation de mise sur le marché. Mais je crois effectivement, au vu de ce qui se passe aux États-Unis, que le mésobotox, on en avait
parlé. Donc ce botox très dilué,
Très dilué, dont on a vu les effets quand on fait du botox sur une peau beaucoup plus lisse au niveau de la zone T, parce que le botox on le fait sur le front et on s'aperçoit que même les gens qui ont une peau mixte ont une peau moins mixte et plus sèche après botox.
Oui,
et c'est comme ça.
En fait, c'est la suite logique de votre chronique de la semaine dernière.
Et
c'est aussi la suite logique de la chronique de la semaine d'avant où vous nous expliquiez que
c'est un long chemin avec Aurène.
On peut mettre du botox pour les gens qui suent trop dans les aisselles. Parce que ça assèche en fait.
Ça assèche.
Comme le botox assèche, il va peut-être pouvoir nous sauver des pores dilatés.
Voilà. Donc dès qu'on aura les études confirmer qu'on a une autorisation de mise sur le marché en France, on pourra faire ce botox dilué, le mésobotox, et vous piquer le visage pour diminuer les pores dilatés.
Oui, Sophie. Moi, j'ai juste une question. Si on pique, par exemple, sous les aisselles pour la transpiration, il faut bien qu'elle sorte, cette transpiration.
Oui,
elle va sortir où ?
Effectivement. Alors, si vous êtes
non, mais
c'est vrai.
Biais.
Par le sillon interfessier premier.
Ah, vrai, c'est
vrai. C'est dans les pipis. Ah, donc vous suez des fesses, quoi, après.
Oui. Oui, mais en général, les patients qui ont une demande comme ça forte de botox, parce qu'il faut vraiment transpirer pour se dire je vais aller faire du botox sous les aisselles, ils sont tellement à bout qu'ils préfèrent transpirer
des fesses.
Ça se voit moins.
Après, ça se voit moins.
Puis on peut mettre une couche.
C'est ça. Cette chronique a complètement dérivé. Oui, c'est des cas pratiques.
Enfin,
c'est
en attendant, Aurène, il n'y a pas grand-chose quand même, parce que ce truc-là, ce Botox, ça ne se fait pas encore. Hein. C'est ça pas en routine pas dans les cabinets.
Donc là, pour l'instant, bah, vous pouvez tester, parce que toutes les solutions proposées, elles ne sont pas nocives, mais je ne suis pas sûr que ça fonctionne.
À long terme. Très bien. Bon, bah, voilà. Écoutez, essayez en tout cas de mieux prévenir, hein, c'est ça, parce
exactement,
que pas trop
la prévention
soleil.
Reste le premier. Le premier traitement et
n'agressez pas votre peau,
pas trop hydratez votre peau, pas trop de hammam et au mieux.
Et on attend le mésobotox. Merci beaucoup docteur Aurène Marco. Merci. Pour cet éclairage beauté qui nous a passionnés comme toujours avec vous. Merci pour tous ces conseils. Vous restez avec nous car dans un instant, il va y avoir encore de bons conseils, ceux de notre spécialiste mode Sophie Braffman. Elle va nous expliquer cette tendance de mettre des smileys partout sur nos vêtements et c'est pas réservé aux ados, vous verrez. Et puis il y aura aussi la chronique sportive de Jean-Marc Delorme. Aujourd'hui, pas d'exercice en perspective, mais plein de cadeaux. Enfin, des cadeaux pour les sportifs amoureux. Il va nous proposer sa sélection pour la Saint-Valentin qui approche à grands pas. Alors, à tout de suite sur Europe 1.
11h30 sur Europe 1. Bien fait pour vous.
Mélanie Gomez et Julia Vignali.
C'est bien fait pour vous. Nous sommes en direct avec vous jusqu'à 12h30 et notre séquence tendance se poursuit. Toujours plus de bons plans, plus de conseils, juste pour vous, auditeurs d'Europe 1. Et à présent, on va donner la parole à notre experte mode. C'est vous, Sophie Braffman. Alors, une mode souriante en ce moment, qu'est-ce qui se passe? D'habitude, ils font un peu la gueule sur les podiums.
En fait, sur les podiums, on fait toujours la gueule, Julia, je vous rassure. Et sur les front row aussi, les premiers rangs, on fait toujours beaucoup la gueule, je vais vous en parler. Mais on a envie d'une mode un peu souriante. Et je vais vous parler du smiley parce qu'il fête ses 50 ans cette année. Et j'ai repéré pour vous, Marco, vous allez adorer un sweat.
Avec plaisir.
Alors, un sweat magnifique avec un smiley siglé Karl Lagerfeld. Mais ça sera dans mon petit carnet d'adresses tout à l'heure. Bien sûr, avec des prix quand même assez accessibles. Alors, tout d'abord, petit récap sur les défilés haute couture qui ont démarré hier. Le prestigieux défilé Dior qui s'est tenu au musée Rodin. Il y avait Isabelle Adjani quand même qui était là. Donc, une fée parmi les fées. Alors, on a assisté à des justes au corps parés de pampilles, des robes diaphanes recouvertes de tubes noirs ou argentés et des collants ornementés de brillants pour une jambe bijoux. Alors, aujourd'hui, Julia nous a porté un pull bijou et moi je vous recommande, mesdames, pour les saisons prochaines de penser au collant bijou parce que effectivement c'est l'occasion d'être un peu couture chez soi, de faire une tendance très jolie, très festive et souriante et d'avoir ce collant bijou. Mmh. Alors on a repéré encore d'autres tendances lors de la Fashion Week Homme, notamment chez Kenzo où là la tendance phare n'était pas sur les podiums mais bien dans la salle au premier rang avec un couple qui a suscité l'émeute. J'ai nommé Kanye West et Julia Fox. Alors Kanye West aujourd'hui ne se fait plus appeler un Kanye West, c'est Ye, il se fait appeler un peu comme ça. Et alors la grosse tendance, c'est le matching outfit. Alors qu'est-ce que c'est le matching outfit? Eh bien, madame s'habille comme monsieur. Alors en fait, les deux étaient dans un total look de Nîmes.
Ils étaient fous,
ils étaient assez incroyables tous les
deux. Ils étaient beaux ou pas?
Oui,
on voyait pas trop la tête.
C'est-à-dire qu'ils faisaient pas mal la tête aussi. Puis après, madame a mis un plaid parce qu'elle avait un peu froid. Alors j'ai repéré quand même quelques erreurs au jeu des 7 erreurs quand on regarde un peu les tenues communes. Donc on avait des seins obus insérés dans la veste en jean pour madame, rien pour monsieur, une veste oversized, des boucles d'oreilles XXL doré pour elle, rien pour lui, des lunettes noires pour monsieur, un œil encerclé de noir pour madame, et enfin, elle a poussé jusqu'au bout le délire de la sortie avec des bottes en denim, et pour monsieur c'était des bottes méga noires, très très grosses, façon écrase-merde.
Côté mode masculine, un autre événement vous a donné le sourire durant ces défilés.
Alors, si vous adorez comme moi et comme vous, mesdames, peut-être Secret d'Histoire, Stéphane Bern,
évidemment,
tête couronnée,
évidemment.
Voilà, vous avez peut-être repéré le prince Nikolai. Alors, qui est le prince Nikolai? C'est le petit-fils de Margaret II et de Henri, le roi grincheux du Danemark. Alors, je ne le connais pas personnellement, mais c'est la réputation qu'il a. Eh bien, son petit-fils Nikolai a lui défilé lors du défilé Reigns, qu'il a clôturé avec une doudoune rose façon grande couette qu'on porte comme une traîne qui flottait un peu derrière lui. Franchement, ça redonnait
vous
le sourire.
Vous porteriez ça, Aurène, la doudoune rose fluo-couette?
La doudoune rose fluo-couette, je l'ai vue aussi sur Rihanna, je crois, au Met.
Ouais, c'est exactement,
c'était...
elle était
posée. C'est violent, faut y aller.
Ouais. Il faut être, être audacieux sur la couleur, mais le rose, effectivement, ça fait du bien aussi. Il était magnifique et donc je me suis dit, tiens, ça peut être une tendance, sortir dans une couette fluorescente, c'est pas mal.
Jean-Marc, vous, doudoune, allez, éventuellement bleu fluo, pas rose fluo forcément, mais côté couette?
Ouais.
Non, laissez-le tranquille.
Pour courir, c'est pas terrible.
Je vous ai réveillé, pardon, Jean-Marc, excusez-moi.
Je pense que sur le côté pratique pour Jean-Marc, ça ne va pas lui plaire. On va lui trouver d'autres accessoires.
Et je crois qu'en plus, il y a un anniversaire particulier qui justifie cette importance de joie, là.
Alors, justement, c'est le smiley. C'est une entreprise et une invention française, ce smiley. Il a été créé en 71 par le journaliste Franklin Loufranier. Alors, dans France Soir, donc à l'époque, c'était pour un journal, le smiley était là pour redonner le sourire aux Français et mettre en avant, grâce à ce petit logo, les bonnes nouvelles. Alors, son son fils Nicolas a fait vivre le smiley. Il a créé les émoticônes. Aujourd'hui, c'est devenu un habillage pour symboliser l'esprit peace and love des années 70, puis de la house music des années 90.
C'est fou. C'est des Français.
Ah ben voilà, c'est français le smiley, exactement. On peut être fier ce matin.
On appelait ça smiley.
Ben voilà, c'était déjà le smiley, ce petit bonhomme qui donnait le sourire. Et donc, ils ont décidé de faire des collaborations. Alors, il y a déjà eu des grands noms de la mode qui ont fait des collaborations avec lui. Donc, il y avait Jean-Charles de Castelbajac, puis il y a eu le designer Oraito. Mais aujourd'hui, pour ses 50 ans, il y a des collections toutes particulières qui vont sortir aux Galeries Lafayette. On écoute Nicolas Loufrani nous en parler.
On a voulu, avec Sarah, avoir un peu, comme dans ce qu'il y avait chez Colette, c'est-à-dire quelque chose d'éclectique avec un mélange à la fois de marques de luxe, de marques de prêt-à-porter féminin ou masculin, de sport, de street, de cadeaux, de gadgets, de technologies, d'accessoires, de décoration. Donc vraiment, essayer de créer un concept assez éclectique. On a travaillé avec André Saraiva, donc le street artiste, qui a créé des œuvres d'art autour du smiley dans son studio parisien. Et à partir de ça, on a développé une charte graphique qui a été ensuite partagée avec toutes les marques avec qui on était intéressés de collaborer, qu'on a approchées.
Alors, la Sarah qu'il évoque n'est autre que Sarah Handelman, qui était responsable du superbe concept store parisien Colette, que vous connaissez bien, voilà, magnifique. Et donc, il y a de nombreuses pièces qui vont sortir à l'occasion de cet anniversaire du smiley. Donc, je vous ai fait une petite sélection dans les 50 pièces qui vont sortir pour les 50 ans. Une marinière smiley avec la marque Galerie Lafayette en nom propre à 32 €.
Ouais,
un blouson en jean tie and dye chez Lee avec un joli smiley pour 130 €. Pour celles qui adorent les sacs, un cabas en raffia siglé smiley et Vanessa Bruno. Bon, il est un peu plus cher, c'est normal. 295 €, des bottes aigle à 140 €.
Oh, c'est marrant.
Et enfin, un sweet smiley Karl Lagerfeld. Ah bon, c'est pour vous, Aurène, vous allez l'adorer celui-là, à 195. Donc, il y a plein d'autres pièces qui vont vous redonner le sourire, des choses accessibles, des choses plus modes, des choses pointues. Mais je me dis que par les temps qui courent, ça fait du bien.
Bon, on va garder le sweet pour Aurène et puis la petite marinière smiley pour Jean-Marc. Allez, Jean-Marc, ça va être à vous. Vous allez justement aujourd'hui jouer un petit peu le Père Noël. Alors, Noël, c'est fini, mais il y a une autre fête qui arrive bientôt pour laquelle on fait souvent des cadeaux.
C'est la
Saint Valentin, on vous écoute.
J'ai une multitude de choses à vous proposer.
Pour la Saint-Valentin.
Pour la Saint-Valentin.
Et donc des objets connectés.
Connectés, voilà. Et pour les sportifs. Alors, en premier lieu, j'ai cette montre de chez Garmin, alors qui permet le body battery, donc de contrôler le stress, le sommeil. On n'arrête pas le progrès. Il y a plus de 10 sports qui sont répertoriés avec le GPS.
C'est joli la couleur, un petit vert pastel là.
Il y a plein de couleurs différentes. Et ces montres étaient avant très très chères. Et là, on commence à vraiment baisser. On est pour 180 € avec une montre qui est vraiment complète. Sur toutes les applications.
Donc si on a un amoureux ou une amoureuse sportive, c'est pas mal de lui offrir.
C'est jouable. Ça, c'est
une montre à femme, l'amoureuse.
Bien
on
sûr.
Peut être de savoir où elle est, sa géolocalise.
Sympa pour les jaloux.
Donc, ça, c'est pas mal. Après, pour contrôler, je vous en avais parlé la
semaine dernière. Une balance, on peut pas offrir une balance à la Saint-Valentin.
Mais c'est pour les deux, on peut se faire un cadeau mutuel.
C'est dur quand
même. Pour les sportifs, pas du tout.
Honnêtement, mon mari m'offre ça, je pense que je lui balance à la figure.
Pareil.
Donc, c'est Tanita qui fait ça, c'est à peu près 80 €, et on peut évidemment contrôler sa masse grasse.
Il y a peut-être des couples où le poids n'est pas tabou, mais ça sera pas le mien.
Pour des couples de sportifs, c'est très utile.
Voilà.
Non,
mais vous avez raison. Je crois que vous avez des écouteurs, c'est ça.
Et j'ai des écouteurs. Alors ça, c'est génial. C'est JVC qui fait ça. Et donc, ce sont des écouteurs non seulement qui résistent à l'eau, bien sûr, à la sueur, à la poussière, et vous pouvez en plus téléphoner.
Écouteurs
sans fil, Bluetooth.
Ça coûte combien?
Et ça coûte 180 €, mais c'est vraiment hyper résistant. On a le petit boîtier qui va avec, on peut la recharger deux fois, donc on a 9 heures
d'écoute. Et ça tient bien dans l'oreille quand on fait du sport.
Et ça tient super bien, absolument.
Parce que quand on fait du sport, c'est ça qui est embêtant, parfois ça
glisse avec la respiration.
Donc vous avez un petit support là, qui permet vraiment de bien les fixer, je vous laisse regarder.
C'est vraiment prévu pour les sportifs qui transpirent un peu, c'est plus
donc,
fixant que les écouteurs classiques.
Ça tient avec
je veux bien l'imaginer.
Avec un petit caoutchouc, c'est vraiment
on vous les mettra sur les réseaux sociaux.
Est-ce que vous avez des idées de cadeaux, mais côté vêtements cette fois?
Alors côté vêtements, vous allez
Elle veut habiller son amoureux pour le sport.
comme le pédancemètre, que c'est peut-être pas super glamour, mais c'est quand même super utile.
Je crois que ce sera plutôt pour vous, Julia, que pour lui.
Voilà, de chez
génial,
Tuan. Alors ça, je vais laisser aux spécialistes de la poitrine.
C'est les mêmes que pour les chirurgies.
J'étais étonnée que ça vous intéresse autant. Je comprenais pas pourquoi la brassière vous passionnait.
Non, parce que c'est les mêmes et ça coûte moins cher.
Et ça, c'est génial parce que c'est vraiment pour les poitrines un petit peu plus opulentes.
Donc vous dites, Aurène, que c'est les mêmes après chirurgie mammaire, c'est ça?
C'est les mêmes, exactement les mêmes.
C'est un fort maintien de sport, quelque part.
Combien ça coûte, ça, chez Tuan?
Et ça, on est autour des 55€ et on peut monter jusqu'au 115F. Hein, donc,
wow, 115F.
Pour celles qu'on une grosse poitrine et qu'elles font des sports.
Et en plus, le design est joli, c'est assez sobre, épuré, c'est pas mal.
Et c'est vraiment.
On a la validation de Madame Mode. Hein, donc voilà. moi, j'aime beaucoup.
Et du chirurgien esthétique en plus.
Le maintien, il est génial.
Donc, et c'est particulièrement adapté au sport à impact. Donc, ça tient vraiment bien la poitrine. Ça, c'est vraiment.
On dirait que vous l'avez testé.
Pour du footing. Parce que j'imagine, et puis docteur Aurène Marco va nous confirmer que quand on fait du jogging en tant que femme, c'est pas terrible pour les seins.
Il faut bien.
Moi, c'est simple, j'ai arrêté. Moi, j'ai arrêté. Non, mais autrement, on marche. Mais si on veut courir, il faut avoir une poitrine.
Il faut un vrai maintien. Et en vrai, je dirais même plus, si vous voulez avoir une poitrine qui se tient vraiment toute la vie, il faut même dormir avec.
Ah, c'est vrai.
Ouais, c'est dans la nuit où les seins partent sur les côtés et la pose détend.
Il faudrait dormir avec une brassière de sport.
Bah, celle-ci, elle est jolie.
Cette brassière, elle est super. Bien,
Elle est assez sexy d'ailleurs. Ouais. Est-ce que vous avez un cadeau encore un peu plus original à nous proposer?
Alors, plus original, je ne sais pas, mais en tout cas, ce qui s'adresse aux messieurs, alors c'est North Face qui fait ça. C'est une doudoune. Vous allez me dire, c'est une énième doudoune. Eh bien, non, parce que, et j'aime bien les citer, comme j'avais cité la dernière fois une paire de chaussures chez Salomon, c'est fait avec des matières recyclées, avec des bouteilles plastiques. Et donc, plus ça va, plus on va vers ça.
Elle est très jolie,
c'est chouette
en plus,
pour l'écologie. Et en plus, ils sont vraiment appliqués sur les points froids, avoir quelque chose de très isolant et tout. Et c'est vraiment sympa. Ils font vraiment des efforts vers l'écologie.
Ça vous fait plaisir qu'on vous offre ça pour la Saint-Valentin?
Oui, beaucoup.
Combien ça coûte, ça?
Et ça, on est autour des 180€.
Allez, le dernier, un cadeau un peu original, peut-être?
Alors, si on a envie de se faire plaisir en couple, c'est Max de Génie qui fait ça. Ce sont des pancakes.
Pourquoi ils ont disparu? Ils étaient à côté de moi, j'en ai plus.
Ils sont dans ma bouche. Déjà...
Oh, vous avez tout mangé, Julien. C'est pas vrai.
Alors, je vous l'ai fait circuler. C'est un couple
Lorraine, les pancakes.
Parce que je suis concentré sur Julia, là.
C'est un couple de triathlètes qui a inventé ça. Donc, c'est vraiment la gourmandise.
Moi, c'est mon cadeau préféré, le pancake.
Et donc, 4 pancakes, ça fait une pomme. Hein. Donc, vous voyez, Donc, ça, c'est vraiment chouette.
Non,
après, ça dépend évidemment de...
Pancakes spéciaux, non?
De ce qu'on va rajouter dessus. C'est protéiné et il y a des fibres. Et c'est vraiment chouette, quoi. On peut vraiment prendre des petits déjeuners sympas sans s'alourdir sans...
C'est très très bon, effectivement. Et vous savez quoi? C'est une façon de dire je t'aime, mais ne prends pas de poids.
Exactement.
Merci beaucoup, Jean-Marc, pour cette très chouette sélection d'idées, cadeaux pour la Saint-Valentin. Je vais sûrement vous en piquer une ou deux, pour mon cher et tendre. Merci à tous les trois. On vous retrouve très bientôt dans Bienfait pour vous. Et bien voilà, cette émission est finie pour aujourd'hui, mais nous serons bien entendu de retour demain, dès 11h. Et Mélanie, demain, quel sera notre premier thème du jour?
Eh bien, Julia, on va rester demain dans les histoires d'amoureux, mais on vous expliquera pourquoi le couple parfait n'existe pas. Enfin, à part le mien, évidemment.
Oui,
ce sera notre sujet du jour dans Bienfait pour vous.
D'ici là, n'hésitez pas à nous envoyer vos questions, vos témoignages aussi, si vous le souhaitez, sur notre compte Instagram ou sur le répondeur de l'émission au 3921. À suivre, c'est Europe Midi avec Romain Desarbres.